Nous allons dans la Genèse, si vous voulez bien, au chapitre 1. Elle a travaillé dehors, au soleil. Bénédicte et Véronique et Noémie ont aussi été dehors. Moi, de mon côté, j'ai reçu la visite d'une dame qui est seule, qui est veuve et qui a perdu son mari. Il avait 56 ans et ses trois fils. Et qui est seule, et qui est déjà été venue dans notre grand jardin, dans notre champ, me trouver il y a ça un an ou deux. Mais maintenant, Dieu fait son œuvre en elle. Elle est loin d'être convertie, vous savez, mais fait son œuvre en elle. Parce que vraiment, elle avait reçu dans son cœur un message du Seigneur en disant « Ne cherche pas à parler avec les morts ne te parleront pas. Le seul qui peut te parler, c'est moi. » Voilà. Alors je lui ai dit bien sûr que c'était Jésus qui pouvait lui parler, et dans sa Bible, évidemment, et par le Saint-Esprit. Et on a pris la Bible tout de suite, elle est venue, et donc voilà, j'ai passé, c'était imprévu, mais c'était prévu par Dieu. Bon, alléluia pour tout cela, ça arrivera encore souvent, pourtant c'est interdit de bouger, mais elle est venue. Que voulez-vous? Le salut passe avant le coronavirus de cette femme. Alors, dans Genèse, hein, Genèse chapitre 1, je vais prier. Seigneur, Père chéri, Père du ciel et de la terre, c'est très humblement que je vais donner cet enseignement pour partager ta parole à mes frères et sœurs. Dans ces périodes difficiles, donne-leur le cœur, Seigneur, d'aller dans l'Écriture, de rechercher ta face. Et pour moi-même, Seigneur, je peux dire ceci. Me voici devant toi, Seigneur, comme un serviteur inutile. Je suis heureux de donner la nourriture, en son temps utile à chacun. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 20, nous sommes au cinquième jour de la création. Et Dieu a créé les animaux. Que les eaux produisent en abondance des agneaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, c'est les oiseaux qui volent, évidemment, vivants. Et Dieu, verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Voilà. Et il leur parle, et il leur dit, donc ils ont compris, puisqu'ils l'ont fait, la nature obéit à Dieu, et je pense qu'elle connaît parfois plus Dieu que nous, en tout cas quand on n'est pas converti. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Voilà une création qui est bénie, qui est belle, qui est bonne. J'ai déjà donné des enseignements sur les antagonismes. Entre Dieu et Satan, entre Dieu et l'homme. Et puis ensuite, dans la vie chrétienne, quelqu'un qui a accepté Christ peut encore avoir des luttes contre Dieu. J'ai parlé de ça. Maintenant, j'aborde un autre antagonisme, c'est celui de la nature et de Dieu. Mais là, pour le moment, je vous montre dans une première partie qu'il n'y a pas d'antagonisme. Il y a une bénédiction. Et quand une bénédiction est donnée sur quelqu'un ou sur la nature... c'est Dieu qui fait du bien à cette personne ou à cet animal ou à la plante, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Dans le livre des Proverbes, on trouve cette explication, évidemment. Alors, le sixième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 24, Dieu dit, quand c'est chaque fois dit, hein, à chaque étape, à chaque jour, dit, c'est le davar, en grec c'est logos, en français, c'est Christ, c'est le Logos, c'est le Verbe de Dieu, le Logos. Donc, Dieu, Elohim au pluriel, Dieu, Père et Fils et Esprit Saint, Elohim, c'est au pluriel, c'est pas Eloah ou Jéhovah, c'est Elohim. Et puis, l'outil, l'auteur de la création, le fabricant, le maître d'œuvre de la création, c'est le Dabar, c'est le Logos, c'est Dieu, le Logos. C'est lui la parole toute puissante qui crée toutes choses. Et la prédication de dimanche passé était sur ce sujet. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, si cela est bon, c'est pas à nous de dire que c'est mauvais. Si quelque chose est mauvais dans les animaux et dans la nature, maintenant, c'est qu'il y a eu un problème entre-temps. C'est que le péché de l'homme est intervenu. Sinon, tout était dans la bénédiction. Je ne vois pas qu'un lion puisse attaquer Adam et Ève, ni un serpent, avant le péché. Comprenez bien. Je ne vois pas un lion qui mange l'antilope avant le péché. Ok ? Ça, on reviendra là-dessus après. Donc c'est le péché qui a détraqué les rapports entre hommes et animaux, et entre les animaux aussi. Alors, il faut bien se rendre compte qu'au verset 31, c'est le sixième jour, hein, ça va jusqu'au sixième jour, les animaux et les hommes, ils ont une seule chose à manger, c'est les herbes, au verset 29. Toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce qui sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Cela fut ainsi. Donc il n'y a pas de carnassiers, ni hommes, ni animaux. Il n'y a pas de carnivores. Et voilà, cela fut ainsi, Dieu vit. Tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dans tous les jours, c'est à ce moment-là qu'il dit, cela était très bon, c'est une insistance. Donc, j'en suis venu à ça, pourquoi ? Parce que l'antagonisme du coronavirus qui vient toucher des populations à travers le monde, c'est dérèglement, peut-être qu'il y en a d'autres après, pire. Eh bien, pratiquement, c'est des dérèglements qui ne sont pas dus à Dieu. Des règlements en conséquence du péché d'Adam et Ève, et aussi de nos sociétés, de nous-mêmes, de nos péchés. C'est quelque chose qui n'est pas venu de Dieu, le coronavirus. Croyez-le bien, le mal ne vient pas de Dieu. Jacques, dans son épître, au chapitre 1, dit qu'il ne faut pas soupçonner Dieu d'être auteur du mal. Il ne nous tente pas, parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Vous vous rendez compte, dans la première église, Jacques, le frère de Jésus, qui doit prêcher là-dessus, parce que déjà, sans doute, qu'il y avait des problèmes, et on s'en prenait à Dieu. Et donc, il a fallu mettre la pendule à l'heure, comme on dit. Alors, au chapitre 2, verset 19. Au chapitre 2, verset 19 de Genèse, toujours. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. On peut se marrer, mais je vois chez nous, on a 5 chats, on en a eu 8, etc. Chaque fois, c'est un peu chaque fois Noémie, mais c'est arrivé que ce soit moi. On donnait un prénom, un nom à chaque animal qu'il reconnaît. Qu'il reconnaît. Quand j'étais enfant, il y avait des vaches, elles avaient tout un prénom, et chaque fois que mes parents m'envoyaient chercher les vaches dans les prairies, je les appelais par leur nom ou prénom. Elles le reconnaissaient, elles tournaient la tête, elles venaient. Alors, l'animal attend d'avoir un nom, il n'est pas d'être pris pour un objet. C'est ça que je veux vous dire. Je suis triste quand je vois des abattoirs et quand je vois ce qu'on fait subir aux animaux pour tout simplement qu'on mange du cervelas, de la viande à tort et à travers. Ces pauvres animaux attendaient de nous une bénédiction et un nom. Alors, j'en reviens à ceci, c'est où est la bonne mesure dans tout ça? Regardons dans Jérémie chapitre 27, verset 5. Jérémie, chapitre 27, verset 5. Et soyez bénis, vous verrez, il y a beaucoup de textes très importants, très, très beaux qu'on va lire. Hein. C'est un enseignement que j'ai préparé depuis longtemps. Jérémie, chapitre 27, verset 5. « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. C'est extrêmement important, les amis, de savoir cela. Et ces animaux et ces hommes sur la terre ont un territoire à eux. C'est Dieu qui donne les territoires. Tout cela est capital. Maintenant, nous allons aborder il y a deux exceptions d'animaux sacrifiés dans l'époque, dans la première époque de l'humanité. C'est l'agneau sacrifié par Dieu, et après ce sacrifice, pour représenter le sacrifice de Christ, parce que Adam et Ève avaient péché et avaient reconnu leur péché, Dieu a déposé la peau de l'agneau sur le dos d'Adam et Ève. C'est la marque de Christ, et ça c'est dans Genèse chapitre 3 verset 21. Là, on voit là qu'il y a eu un sacrifice. Et non pas parce que Dieu n'aime pas l'animal, mais il veut faire préfigurer le sacrifice de Christ et marquer Adam et Ève. L'explication en est dans Romains chapitre 5 verset 14. La bénédiction de Dieu était sur la création, hommes et animaux. Maintenant, ce qui se passe, après le déluge, il se produit quelque chose. Regardez en Genèse, chapitre 9, verset 2. Genèse, chapitre 9, verset 2. Le déluge, tout est terminé. Il y a eu un sacrifice de la part de Noé. Il y a eu une manifestation glorieuse de Dieu avec l'arc-en-ciel, une bénédiction. Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils, et bien sûr les femmes et les enfants, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le péché n'est pas résolu. Le sacrifice à la croix n'est pas résolu. Le royaume de Christ n'est pas installé. Donc le péché continue et se développe. Et Dieu explique ce qui est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Malgré la promesse qu'il a fait à Adam et Ève avec la peau de l'agneau déposée sur eux et le sacrifice d'Abel, il leur annonce les conséquences en chaîne, en cascade de ce péché. Et il y en a une, c'est que vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre. Donc ce n'est pas que Dieu le veut, c'est que Dieu explique les conséquences catastrophique du péché sur la nature. Ça, c'est extrêmement important, les amis, de ne pas accuser Dieu. C'est pas possible, il ne faut pas accuser Dieu de cela. C'est la conséquence du péché. C'est seulement quand Christ reviendra établir son règne que nous verrons un nouveau rapport entre les hommes et les animaux et entre animaux. Alors, donc l'homme exerce une oppression et parfois même la mort. Et chez nous, dans la société moderne, par les abattoirs, une mort systématisée sur la nature. Et on l'a vu avec les pulvérisations, avec toutes sortes de produits d'engrais, la disparition d'un tas d'espèces d'oiseaux, la pollution des océans et la disparition de toute une série de poissons, d'animaux, etc. Donc l'homme est l'auteur de ce mal. Sauf s'il se convertit, il se repent. Alors, nous allons voir, bien sûr, que l'animal peut être en accord avec Dieu pour faire du bien à l'homme. Et nous allons, par exemple, dans le premier livre des Rois, chapitre 17, premier livre des Rois, chapitre 17, versets 3 à 7. Vous m'entendez, Anne, à Limoges?
Oui, oui.
Ah bon.
Oui, j'entends.
Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 3 à 7.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, vous avez tout simplement Élie qui est tout seul dans un torrent. J'ai vu cet endroit en allant là-bas. Mais bon, avec les lunettes d'approche, parce qu'il y a la Jordanie. Au-delà du Jourdain, c'est la Jordanie, je ne pouvais pas y aller. Donc, premier livre des Rois, chapitre 17, et au verset 3. C'est un miracle. C'est un miracle. Mais c'est possible, les miracles de ce genre. Verset 3. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, donc qui est à l'Orient du Jourdain, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc il va devoir partir après à Sidon, tout près de Sidon, un village qui s'appelle Sarepta, et il va vivre avec la veuve de Sarepta et son enfant. Bon, maintenant vous voyez que Dieu peut diriger des animaux, même dans le contexte actuel, pour une bénédiction. Regardons Daniel. Daniel chapitre 6, versets 19 à 23. Daniel et les lions. Daniel, chapitre 6, versets 19 à 23. Chapitre 6, versets 19 à 23. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse de lion. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a passé une sale nuit, il aime Daniel. Mais il a dû le condamner, parce que tous les hommes politiques alentour de lui, de 123 pays, ont décidé de faire disparaître Daniel. Et il a dû céder. Mais il est tombé dans un piège, évidemment. Vous lisez l'histoire avant, vous verrez. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà un exemple, un deuxième exemple de l'intervention divine. Maintenant, vous vous rappelez dans le livre des Nombres, l'âne de Balaam, Nombres, chapitre 22, verset 22, Nombres, 22-22. Et là, vous allez évidemment être étonné aussi. Comment est-ce qu'un âne peut parler ? Comment est-ce qu'un âne peut réagir et protéger un médium, un ennemi de Dieu, un ennemi d'Israël ? Parce que simplement, c'est Dieu qui l'a ordonné à cet âne de s'arrêter. Autrement, l'ange exterminateur était devant l'âne et devant Balaam. Alors, au verset Nombre 22, verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, donc d'Afghanistan, d'où il était, et il ne devait pas partir, il ne devait pas aller maudire Israël, mais il est parti quand même, et un ange éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Sauf que Balaam ne le voit pas. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui, sans doute sur des ânes aussi. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Donc l'ânesse voit l'ange, et Balaam ne le voit pas. Balaam qui prétend avoir des visions et tout voir, il voit rien. Vous voyez à quel point ça peut être stupéfiant ce que dit la Bible. Et l'ânesse va dans les champs, et bien sûr, l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Ben oui, Balaam a eu très mal. Peut-être il a risqué de se faire casser la jambe, mais voilà. Et toujours est-il que l'ânesse va parler. Et verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ?» Déjà trois fois. Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Il n'est pas bon, petit gars, hein ? Alors, nous voyons bien que l'ânesse a bon cœur et aime son maître. Vous voyez ? Et qu'elle obéit à Dieu pour s'arrêter. Et pour faire comprendre que Balaam doit s'incliner devant Dieu, devant son autorité. Vous devez vous rendre compte de ça. Moi, j'ai eu dans le ministère un cas où on m'appelait pour prier dans une maison où le chat parlait. Et chose bizarre, qu'est-ce que disait le chat ? Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici ? Il est évident que ce n'était pas le chat. On s'ennuie, ça veut dire plusieurs. Plusieurs quoi ? Plusieurs démons. Et j'ai d'abord présenté le Seigneur Jésus à la personne. J'ai voulu, et je lui ai dit, je ne suis pas un gourou, je ne chasse pas un démon, je n'ai pas de rôle là-dedans, c'est Jésus qui a autorité. Et puis, après avoir prié, ça ne s'est plus jamais reproduit. Mais c'est pour vous dire, le chat parlait. Donc, il se passe dans la nature des choses phénoménales qui ne sont pas explicables par l'humain. Et c'était à 25 km de chez moi, cela. Après cela, j'ai pu faire des études bibliques chez cette femme pendant plusieurs années. Parce que avant, oui, elle fréquentait n'importe quoi, n'importe qui, et j'avais essayé de faire des études bibliques, elle ne voulait pas. Mais il a fallu une épreuve comme ça et d'autres du même genre, pour qu'elle voie l'action du Seigneur Jésus, tout puissant. Et moi, je vous explique ce cas-là pour vous dire qu'un animal peut être dirigé par Dieu pour bénir, mais un animal peut se plaindre, dans mon cas, c'était le cas, de l'action de Satan, des démons. Alors, je voudrais vous parler aussi de Jonas, dans Jonas. Si vous voulez bien regarder le livre de Jonas, au chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Donc le poisson, la baleine là, elle obéit. C'est clairement dirigé. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Et vous voyez qu'il est dans le séjour des morts, donc il est décédé. Et puis après, il va, bien sûr, être rejeté par l'animal, et puis il va revivre. Lisez tout le chapitre, vous verrez qu'il revit. Il est passé de la mort à la vie. Donc, mais l'animal a obéi. C'est pour vous dire qu'un animal peut être dirigé par Dieu. Et c'est peut-être plus souvent qu'on ne pense. L'autre jour, j'avais des blessures à ma jambe qui dataient depuis plusieurs années. Je m'étais heurté à des objets. J'avais des taches rouges et des croûtes. Et je vais en visite chez une personne très handicapée qui fait... où je fais des études bibliques, et le chien venait tout près de mon pantalon. Il lui dit, relève ton pantalon, laisse-toi faire. Ce chien m'a léché. 15 jours après, je n'avais plus rien du tout. Comment le chien pouvait savoir derrière, avec mon pantalon, j'étais pas en short, que j'avais quelque chose là. Et donc cette femme qui est très profonde, qui est handicapée depuis la naissance, et qui étudie la parole de Dieu avec moi, est très profonde. Elle voit les choses. Elle connaît son animal. Elle m'a dit, laisse-toi faire, c'est Dieu qui l'envoie tout près de toi. Eh bien, vous voyez que parfois ça nous rend beaucoup plus humbles et beaucoup moins malins qu'on ne pense. Dans Jonas, il y a d'autres exemples d'intervention. C'est au chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Et pourquoi il est irrité ? Vous lisez le début du chapitre 4. Jonas est enragé, irrité contre Dieu parce qu'il aime les Ninivites et veut leur pardonner. Mais les amis, on est en 720. Et en 722, 2 ans avant, les gens de Ninive, les Assyriens, avaient déporté 10 tribus. Et ils avaient ramené des autres personnes, des païens à la place. Et donc, ce Jonas, ce juif, était fâché contre Dieu qui avait de la compassion pour les ennemis. Mais vous voyez bien que Dieu veut montrer sa patience et fait pousser un arbre dans le désert pour abriter ce prophète qui a un mauvais cœur, qui n'aime pas son ennemi et qui ne pardonne rien, mais qui va quand même faire le travail, il va aller proclamer la parole de Dieu. Alors, Dieu fait pousser un arbre dans le désert pour un serviteur de Dieu qui a un mauvais cœur. Imaginez, il a souvent fait pousser des choses pour nous abriter, des bénédictions, alors que nous n'étions pas bien disposés dans notre âme. Hein? Et il faut analyser tout ça. Et bien sûr, au chapitre 4, toujours, au verset 11, et la discussion continue entre Jonas, qui râle toujours, parce que Ninive s'est converti, a été épargné. Alors, au verset 11, Dieu dit à Ninive, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes et femmes, hein, ça veut dire qu'avec les enfants, il y a plus d'un million de personnes, plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, donc qui n'ont pas la Torah, qui sont aveugles, qui ne connaissent pas la révélation, qui ne connaissent pas le Dieu vivant, et des animaux en grand nombre, des animaux en grand nombre. Donc Dieu demande à Jonas de revoir sa position aussi pour les animaux. Donc nous voyons bien que Dieu a de l'amour pour les animaux et que les animaux ont une place dans le regard de Dieu. Alors pensez à Élie, hein, qui est dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, verset 4. Le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 4 et 5. Non, pas du tout. C'est un texte, je l'ai mis après, je l'aurais pu le mettre au même moment que l'on lisait l'histoire des corbeaux, mais ce n'est pas du tout le même cas. Là, Élie est dans l'amertume, dans la désolation, et il a fait massacrer 800 prêtres de Baal. Et je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu, hein, parce que le peuple d'Israël ne s'est pas converti malgré tout, hein, en ayant pris part à ce carnage, hein, ce n'était pas les moyens que Dieu voulait. Hein. Mais bon, voilà. Après, il est en grande dépression et il part sous la menace de Jézabel qui veut l'assassiner. Tout d'un coup, il a peur, il est dans la peur et la dépression. Il part vers le Sinaï, il a du chemin à faire. Et au chapitre donc 19, c'est ça, premier livre des Rois, 19, verset 4. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Vous savez, les genêts dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. Hein, et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ben oui, il faut bien le reconnaître un jour, on n'est pas meilleur que papa et maman et que tous les autres. Hein. On doit passer par là. Hein. On doit perdre sa superbe. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis il se recoucha. L'arbre était là, la nourriture est là et tout était là. Est-ce que Dieu n'a pas la maîtrise, hein, à la fois de la nature et de la nourriture? C'est des choses très importantes, les amis, qui doivent nous donner des enseignements pour aujourd'hui, demain, après-demain, parce que ce n'est pas fini après le coronavirus. Le monde a trop joué avec Dieu. Il faut des épreuves pour le remettre à sa place et qu'il y ait de la repentance. Vous savez, David s'est caché à En-Gedi. Je n'ai pas été rechercher le texte, j'ai oublié. Mais En-Gedi est un endroit dans le désert que j'ai visité, où il y a des sources, des cascades, et là il y a des petits bouquetins qui sautent dans les rochers, qui, depuis des milliers d'années, en plein milieu du désert. Il y a des oiseaux, tout noirs, avec tout le dessous rouge vif. Et puis il y a des damans, des espèces de castors sans queue. Et tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique à visiter, chers amis. Et David s'est caché là, C'est une bénédiction que d'être là. J'ai été avec trois amis. Vraiment, c'est un petit paradis terrestre au milieu du désert. Et les sources jaillissent du sol, du désert. C'est incroyable, depuis des milliers d'années. Deux torrents. Et on voit bien que la nature est une bénédiction dans les mains de Dieu. On le voit, là on le voit. Et c'est pas étonnant que David se soit réfugié là-bas. C'est en même temps une consolation pour son cœur de voir toutes ces bénédictions. Bouquetin, oiseau, d'amant. Alors, regardons dans Job maintenant, au chapitre 37. Job, ça fait 42 siècles, hein, Job. Donc, Job, c'est avant les psaumes, si vous voulez, hein, si quelqu'un cherche. Job, chapitre 37. Il y a beaucoup de passages, de descriptions sur les astres, les étoiles, la grandeur de Dieu dans Job. Je ne peux pas me permettre de tout aborder aujourd'hui, c'est fantastique, c'est magnifique. Mais j'ai choisi un petit passage au chapitre 37. Au verset 5. 37 verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse, donc pas terrifiante. Il arrive que parfois la voix de Dieu, Kol Yahveh, elle crée l'effroi. Hein. Mais ici, c'est une voix merveilleuse. C'est quelque chose qui est pour faire comprendre l'amour de Dieu. Hein. L'amour de Dieu. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Eh bien oui, oui. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Donc Dieu parle à la neige et à la pluie. Les amis, attention de toujours croire à la météo que c'est elle qui maîtrise. Elle ne maîtrise rien du tout. Nous avons au village un monsieur qui a une montgolfière et qui circule en montgolfière. Et l'année passée, je le croisais dans les champs. Il allait faire voler sa montgolfière. Il avait le gaz et tout. Il allait en train de l'équiper. Et ce qu'il m'a dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu t'intéresses à la météo avant de partir, de voler? Oui, oui, toujours. Mais maintenant, vous savez, Jean, depuis 2-3 ans, la météo ne m'annonce avec sécurité quelque chose que 1h30, 2h à l'avance. Et pourquoi? Ah, c'est fini, ils ne sont plus sûrs de rien. Ils ne sont plus sûrs de rien. Vous avez bien compris? Un monsieur qui habite à 200 mètres de chez moi, qui travaille pour RTL Luxembourg. Alors, Job 37, verset 7. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Mais regardez votre main et les lignes, elles ne sont pas celles de votre enfant, de votre papa, de votre maman, même s'il y a des fortes ressemblances. Et la police s'en est servie à partir de la fin du 19e siècle. Il y a un gars qui avait lu ce verset et s'est rendu compte ben, de mettre les mains sur des tampons ancrés et puis de les poser sur des feuilles pour voir et comparer. Et maintenant, toute la technique des empreintes digitales est très développée par ordinateur. Eh bien, ça repose sur ce verset. Il met un sceau sur les mains de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux, il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Je vous en supplie, lisez les chapitres qui suivent, tout le chapitre 37 et 38. Vous allez voir que la nature, même s'il y a eu le péché pour la dérégler, il y a quand même, la nature est sous contrôle. Elle ne va pas jusqu'à les extrêmes négatifs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Voyons maintenant le psaume 147. Le psaume 147, donc le psaume c'est après Job. Il y a beaucoup de psaumes qui parlent de la nature, évidemment. Je n'ai pas pu les lire tous aujourd'hui ici. Hein. Alors, psaume 147, versets 15 à 18. Ben, je vais commencer au verset 14. Il rend la paix à ton territoire en parlant de Sion, de Jérusalem, un jour, quand ce sera dans le royaume messianique. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, hein, la fine cendre, il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Vous voyez la maîtrise? Allez lire Ésaïe 55, vous allez voir encore des choses à peu près semblables dans Ésaïe 55. Hein? Et vous allez voir aussi dans Ézéchiel 39. Et donc tout cela, c'est extrêmement important. Je vais arrêter sur ce point-là. Dieu a gardé la maîtrise malgré que le péché a déréglé un certain nombre d'éléments de la nature. Bon, maintenant, à la fin des temps, le péché augmente. C'est le troisième point de mon exposé. Le péché augmente et s'aggrave. Anne, vous m'entendez toujours ?
Oui,
avant. Le péché prend une ampleur de plus en plus grande sur la terre. Et les hommes prennent l'habitude même d'offenser Dieu. C'est annoncé, bien sûr, évidemment, dans la Bible. C'est que dans les derniers temps, on va réellement blasphémer contre Dieu. Je pense qu'on y est. Et durant ce temps, il a annoncé quand même des sanctions via la nature pour faire réfléchir les hommes. Prenons Joël, chapitre 1. Joël, chapitre 1. Vous ne savez pas, vous prenez votre table des matières parce que c'est pas facile, autrement, pour trouver le petit Joël, le brave Joël, dont Pierre a pris certains versets pour ses premières prédications. Joël, c'est avant Amos, hein? C'est après Osée, c'est avant Amos. Joël, chapitre 1, versets 3 et 4. Quand Joël vivait en Israël, au 8e siècle, il y avait un tel entêtement dans le péché de Tyr et Sidon, de Acab et Jézabel, continuait, et que Dieu a prononcé des jugements. Et je vous en parlerai un petit peu pour aujourd'hui. Au verset 3 et 4. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants. Joël, chapitre 1, verset 3 et 4. À la génération qui suivra, ce qu'a laissé le gazam, donc une forme de gazelle qui broute l'air, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Gélec, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. Donc il y a toute une cascade d'animaux qui arrivent, puis c'est le désert. Il n'y a plus que des cailloux et du sable. Et c'est arrivé dans beaucoup de pays, cela. C'est clairement annoncé, par exemple dans ce cas-là, pour, à l'époque de Joël, pour les 10 tribus du Nord. Hein? Et rappelez-vous que quand Élie avait prié, parce que Acab et Jézabel avaient le suffrage de tout le monde marchait avec eux et reniait le Dieu d'Israël, eh bien Élie avait prié et il n'a pas plu pendant 2 ans et demi. C'était le désert, c'est pour ça que Élie a dû partir. C'est pour ça que Ruth est partie, n'est-ce pas? Naomi, etc. Hein? Et puis ils sont revenus après, quand la famine était finie. Alors, regardons toujours dans Joël, chapitre 1, versets 10 et 12. 10 et 12. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Toujours Joël chapitre 1, verset 10. Verset 11, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier est languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Les amis, vous n'avez déjà pas vu souvent ça, des problèmes comme ça, dans le sud de la France, à travers la France, même jusqu'au milieu de la France? Et dans d'autres pays? Et c'est qu'on ne retourne pas vers Dieu, malgré tout. C'est ça le problème. Mais si on ne veut pas Dieu, on ne peut pas avoir la bénédiction. On ne peut pas l'avoir. Alors, on ne peut pas jouer avec Dieu et lui demander tout et s'en moquer. Ou recevoir tout sans penser que c'est Dieu. C'est aussi une offense. Donc, surveillons-nous, nous, en tant que chrétiens, de prendre Dieu pour un jackpot, pour un fournisseur automatique de bénédiction. Il faut respecter et craindre Dieu. Il y a de l'amour pour Dieu, mais de la crainte aussi. Une crainte parce que c'est lui le maître, c'est pas nous. Donc, chapitre 1, versets 15 à 20. Toujours dans le même chapitre. Ah, quel jour! Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie au Éternel. C'est Joël, là. Car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Après la sécheresse, le feu. Regardez en Australie. Regardez un peu partout ce qui se passe. Regardez un peu. Il faut ouvrir les yeux, il faut lire ça. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Mes chers amis, Joël a tapé en plein dans le mille. Et c'est pas de la bigoterie. C'est l'autorité de Dieu qui intervient. À la fin des temps, voici ce qui est dit dans Zacharie, chapitre 14. Je parle de la nature, toujours. Je pourrais lire tout le chapitre, mais bon, le temps nous manque. Zacharie 14, verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, donc le Christ, l'armée l'Éternel des armées, donc des anges, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc pendant le royaume de Christ, ceux qui ne vont pas venir pour l'adorer et le prendre comme roi de roi à Jérusalem finiront dans la famine et disparaîtront. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la pluie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Fête des tabernacles, j'expliquerai ça une autre fois si vous voulez, si vous avez des questions. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, il y a une absence de pluie sur les nations à la fin des temps, et une disparition de ces nations-là, parce qu'ils n'en mangent pas, on disparaît. Et pour ceux qui reconnaissent Christ comme roi, Seigneur des Seigneurs, à Jérusalem, et qui acceptent l'autorité de Christ, il y a la bénédiction. Ça, c'est à la fin, mais dans combien d'années? Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça s'approche. Il y a quand même un temps où Dieu perd patience et montre sa totale autorité. Il y a un temps pour se repentir maintenant, comme dit Pierre dans son épître, deuxième épître, au dernier chapitre. Mais évidemment, qu'est-ce que se passera-t-il après ces sanctions-là, que ceux qui sont contre Dieu sont brisés? Que se passera-t-il dans le royaume de Christ pour ceux qui sont avec lui? Alors là, c'est la quatrième partie de mon exposé. C'est Ésaïe 11, les bénédictions du règne du royaume de Christ. Ésaïe 11. Si j'étais avec vous pendant plusieurs jours, faire une retraite, je pourrais dire pourquoi j'ai choisi ce texte-là. Est-ce que je vais les prendre clic-ploc n'importe comment? Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Je les prends ici pour faire un exposé, mais ils ont un enchaînement, une cohésion avec d'autres textes dans Ésaïe, etc., dans Jérémie, dans Ézéchiel. Il n'y a rien par hasard dans l'Écriture. Et je suis forcé par l'exposé de prendre des textes pour vous exposer une pensée. Et cette pensée, c'est clair. Nous allons dans Ésaïe chapitre 11. Le texte révélé à Ésaïe et écrit et proclamé par Ésaïe en 780 avant Jésus parle d'abord de Jésus-Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, donc c'est l'ancêtre de, c'est le papa de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte et ne jugera point sur l'apparence et ne prononcera point sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Heureusement, les amis, hein, parce qu'il y en a des paquets, hein, des paquets. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. C'est pas pour n'importe qui, hein, le coup de verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ça, c'est le Christ, hein, dans son règne. Au moment où il instaure son règne, il va punir, il va sauver. Il n'est plus là pour le temps de la passion, il est là pour le temps des jugements. Alors, qu'est-ce qu'il a dit pour la nature ? Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance éternelle, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vous imaginez à quel point nous connaîtrons Dieu et Christ. Autant qu'il y a d'eau qui couvre tous les fonds des mers, la connaissance que nous aurons. Et vous voyez comment la nature est dans la paix, est réconciliée. Donc ça, si nous allons au chapitre 2 d'Ésaïe, chapitre 2 d'Ésaïe, chapitre 2 d'Ésaïe, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, sur tous les peuples, sur tous les royaumes, tous les états. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, loi vivante incarnée, c'est le Christ. Hein » Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel, le Christ. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, le Christ. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Plus d'armes. Et hoyaux, c'est les houx, c'est les bêches. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a besoin d'un gros tracteur qui coûte 500 000 euros, 1 million d'euros? Et des grandes charrues? Regardez ce qui nous attend là. Chacun quelques heures dans son jardin, dans son champ, on a de quoi se nourrir en paix. Et vous voyez que les choses vont revenir au calme et que la folie de la technologie, de l'agriculture moderne, elle va cesser. Cette technologie agricole qui détruit la terre et son équilibre. Alors, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Adieu les fabriques d'armes. Adieu la fabrication d'armes, puisqu'on en fera des outils pour travailler. Et adieu les vendeurs d'armes et les prédicateurs de malheur qui font la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. À la lumière de l'Éternel, la lumière de Dieu, c'est le Christ. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Le chapitre 8 de Jean. Donc, tout se tient dans la Bible, tout est cohérent, les amis. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Puisqu'on nous parle, je vous parle de la fin des temps, eh bien, c'est pas la fin des temps pour nous. C'est la fin des temps du péché, et de l'horreur, et de l'injustice. C'est la fin du temps du bonheur, et de la paix en Christ. Le mot fin des temps, ça ne veut rien dire, sauf pour celui qui a peur et qui est dans le péché. Alors, Apocalypse 22, versets 1 à 5. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, donc à Jérusalem. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. L'arbre de vie qui est dans la Genèse au début, hein? Et oui, et qu'on n'avait plus accès depuis le péché. L'arbre de vie, c'est Christ, hein? Mais bon, c'est une image formidable de représenter Dieu par cette image. Allons un peu plus loin. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Guérison des nations, au niveau psychique, au niveau du corps, de la résurrection. Lisez Ésaïe 25, versets 5 à 9. Qu'est-ce qui se passera à Jérusalem, à Sion, en Ésaïe 25, versets 5 à 9. Le voile de la mort sera ôté sur toutes les nations. Il n'y aura plus ni deuil, ni chagrin, ni pleurs, ni mort. Voilà. Alors, il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire il n'y aura plus personne à rejeter, à mettre dehors, puisque ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont plus là, c'est ceux qui étaient contre Dieu, ils ne sont plus là. Il n'y a plus d'anathème. Donc on a la paix, il n'y a plus de combat spirituel entre des personnes pour savoir qui est pour et qui est contre avec Christ, évidemment. Alors, il y a d'autres textes, évidemment. Je ne peux pas les lire tous aujourd'hui. C'est impossible, les amis. Impossible. Je vais aller dans Ézéchiel 34 et 47. Ézéchiel, pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport avec l'Apocalypse. Ézéchiel. Ézéchiel 34. Oui, attendez, hein. Très cher. Ma femme est là, hein. Ma femme est là, elle veille au grain, hein. Ézéchiel 34, verset 21. Elle veille au grain. Alors, verset 21. Parce que vous avez 34, je me suis trompé ou quoi ? Peut-être. Dans Ézéchiel 34, je ne vais pas vous le lire tout le chapitre, c'est la parabole du bon berger, du bon pasteur, qui pense toutes les brebis. Alors, qui reproche aux hommes qui ont eu des tâches spirituelles de ne pas l'avoir fait. Alors, voilà ce qu'il dit. Je lis juste le passage qui peut concerner Israël et nous. Je commence au verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. C'est nouveau le royaume de Christ. Hein. Là, elles reposeront dans un agréable asile, elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Il s'agit d'un pâturage spirituel, hein, autant que matériel, évidemment. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, je fortifierai celle qui est malade. Les amis, si le temps s'approche, avec les épreuves qu'il y a là, du coronavirus, les brebis blessées viennent vers vous, viennent vers les chrétiens, vers les pasteurs. Et c'est important de les accueillir. Qu'est-ce qui m'est arrivé après-midi, là, à 3 heures ? Cette dame, veuve, dont le mari est mort très tôt, et dont les 3 enfants sont morts. Pourquoi ? C'est une brebis blessée que le Seigneur aime. C'est lui qui l'a fait revenir. Moi, quand j'ai vu la personne et que j'ai entendu ce qu'elle disait, je dis, venez, rentrez, on va prendre la Bible, on va prier. Et on va se revoir mercredi et samedi matin. Après-midi. Pourquoi ? Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'elle trouvera la vie. C'est pas moi qui la donne. Et donc, les brebis ont besoin. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, si Dieu veut rassembler ses dernières brebis pour son royaume, vous êtes à la tâche. C'est pas qu'un boulot de pasteur. Hein. Il faut se tirer ça de la tête. Hein. Je dois peut-être donner l'exemple, oui, c'est tout. Mais les pasteurs ne sont pas parfaits, ils ne peuvent pas tout faire. Tous les chrétiens sont à la tâche. Tous nous sommes missionnaires. S'ils ne sont pas missionnaires, nous sommes des missionnaires. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au verset 23 ? J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, ressuscité pour Israël, ça. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Donc, moi, l'Éternel, je serai au milieu. C'est le Christ, c'est Jésus. Vous lisez la fin d'Ézéchiel et vous verrez que c'est l'Éternel qui est au milieu de Jérusalem. Alors, dans Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. C'est bien sûr cet homme remarquable qui dirige et qui montre le futur Jérusalem à Ézéchiel, et qui lui montre ce courant d'eau vive. C'est Christ, hein, évidemment. Et alors 47 verset 1, il me ramena vers la porte de la maison. Depuis le chapitre 40, cet homme qui est intervenu et qui est divin a conduit Ézéchiel en tous sens sur cette Jérusalem, pendant plusieurs chapitres, à partir du chapitre 40, lisez-les, ça vaut la peine. Il me ramena vers la porte de la maison. Donc la maison, c'est le temple. C'est le temple. Donc c'est la porte de l'Orient. La porte de l'Orient, c'est seule à Jérusalem qui pour le moment est fermée. Double arcade et scellée. C'est Soliman le Magnifique, au XVIe siècle, qui a fait fermer les portes. Et vous savez très bien que dans Ézéchiel, il est mis que l'Éternel était passé par la porte. L'Éternel était passé par la porte et personne d'autre ne devait repasser. Eh bien, effectivement, c'est Dieu qui était passé. On le voit dans le livre d'Ézéchiel au début. Dieu était passé par la porte. Et quand elle est fermée, elle ne peut être ouverte que quand le Christ arrive. Il me ramena vers la porte de la maison, donc la porte de l'Orient, la seule qui est fermée. Toutes les autres portes, on peut, quand on visite Jérusalem, on peut passer en dessous, dedans. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison est à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte du Nord. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte d'Orient. Et voici l'eau coulée du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, 450 mètres. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser, tellement il était coulé vite. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, donc vers l'Orient, descendra dans la plaine et entrera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saine, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alors pensez, chers amis, hein, la quantité incroyable de poissons pour nourrir ces gens qui vont venir habiter à Jérusalem dans la région pour être avec Christ. Repensez à Jean chapitre 21, quand Jésus dit aux sept disciples de tirer le filet, et que tout d'un coup, quand ils le tirent, en eau profonde, ils avaient tiré toute la nuit, ils n'avaient rien, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Au matin, ils tirent le filet sur l'ordre de Jésus, il y a plein de poissons au point de faire renverser les barques. Eh bien, c'est cela qui était annoncé aux apôtres. C'est cela qui était annoncé. C'est un rapport direct avec le royaume messianique. Il fallait faire comprendre à ses apôtres que Jésus, le Fils de Dieu, est tout puissant, qu'il établira son règne. Il leur fallait un signe puissant de ce genre-là. Ok ? Alors, vous avez la description des lieux, etc. Quand on visite là-bas, on peut les visiter. C'est des lieux exacts qui existent. Alors, aujourd'hui, je résume. Dieu avait fait une création merveilleuse et bonne, en harmonie entre l'homme et les animaux, et entre les animaux. 2. C'est au temps de Noé qu'après le péché continue, malgré qu'il y a des bénédictions sur Noé et sur les hommes, pour qu'il n'y ait plus de déluge, le péché va encore régner. Et vous le voyez directement, Noé boit du vin et il fait des folies, et son fils se moque de lui, etc. Ils sont nus, etc. Le péché était là, l'impudicité. Et pratiquement, Dieu annonce qu'il y aura, les hommes seront une source d'effroi pour les animaux. Effectivement, c'est ce qui est arrivé et qui est encore le cas. Donc l'homme exerce une pression, une oppression sur la nature et sur les animaux, qui est la manifestation du péché. J'ai pris, bien sûr, un autre point, hein, c'est évidemment un autre point, c'est le troisième point, c'est des signes avant-coureurs de ce que les animaux peuvent être amis de l'homme, peuvent être dirigés pour le bien de l'homme, comme dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est Élie et les corbeaux, c'est Jésus et l'ânon, dans Luc 19, 30, que je n'ai pas lu, excusez-moi. C'est l'âne de Balaam, chapitre 22, je pense, verset 22, oui. C'est Daniel et les lions. C'est Jonas, avec la baleine, avec le ricin, etc. C'est les animaux que Dieu veut protéger dans Ninive. C'est le genêt sur Élie. C'est David à Engedi, qui est protégé, là, qui vit admirablement bien dans un oasis, un écrin de verdure et de vie. Et puis, on a vu Job 37 et le psaume 147. Tout cela pour vous montrer qu'il y a des bénédictions qui continuent et qui peuvent être dirigées pour que les animaux soient protégés. Et je vous ai donné mon cas dans le cadre de mon ministère où ce chat, n'a plus parlé. Il était tranquille, il était débarrassé des mauvais esprits. Mais maintenant, il y a un autre point. Un quatrième point, c'était la ruine. La ruine sur Israël, les 10 tribus du Nord, les prophéties de Joël. Mais si vous lisez attentivement, je n'ai pas pu l'expliquer assez longuement, ces mêmes ruines reviennent sur les nations. Dans Joël. Elles reviennent à la fin des temps sur les nations. Et ces grillons, ces sauterelles qui ruinent tout, qui mangent tout. Je voyais une fois une émission sur Internet de la Mecque, en Arabie, et pendant la nuit, il y avait des millions de sauterelles qui mangeaient le voile de la Kaaba, qui mangeaient les feuilles des arbres à la Mecque, y compris les branches, et qui rongeaient les troncs. Et ils prenaient des réfugiés étrangers pour leur mettre une combinaison, pas un masque, hein, pas pulvériser pour faire tuer tous ces animaux qui étaient là la nuit et pour que la journée on revienne prier et bien sûr faire des offrandes. Les offrandes sont acquises, vous savez toujours bien où ça retombe, toujours dans la même poche. Et donc la Mecque est attaquée par les sauterelles, par les grillons, etc. depuis des mois. Et il y avait un musulman qui était en train de hurler en pleine nuit que ils avaient été trop loin, ils avaient offensé Dieu, que c'était un châtiment de Dieu. Un seul, en pleine nuit, qui a osé sortir et crier ça. Lorsque nous aurons des Français et des Belges qui oseront dire que Dieu intervient, eh bien nous serons à la même hauteur que ce bonhomme. Parce que lui croit en Dieu et craint Dieu. Il faudra peut-être encore un certain temps. Ça, donc la ruine de Joël, dans l'ancien temps pour les 10 tribus du Nord et la ruine que Joël annonce pour les nations, qu'on a lu dans Zacharie 14. Et puis ensuite, il y a la bénédiction dans le royaume de Dieu, cette grande bénédiction où tous les animaux ne s'entre-dévorent plus, où les hommes ne mangent plus les animaux, où tout le monde a à manger. Hein? C'est dans l'eschatologie, c'est dans le royaume de Dieu. Et c'est Ésaïe chapitre 11, chapitre 2, Apocalypse 22. Donc, il y avait plusieurs étapes. Je voulais vous montrer que Dieu a le contrôle de la nature. Et il a le contrôle de tout. Même si nous voyons que beaucoup de choses sont déréglées, vachement déréglée par le péché et par l'homme et son péché. Voilà, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. La prochaine instruction sera mercredi prochain sur un autre antagonisme que vous verrez, ça sera, que je vous expliquerai, ça sera entre Satan et Israël. Je voudrais vous expliquer quel est le conflit qu'il y a entre Satan et Israël. C'est très important pour comprendre beaucoup de choses de la vie d'Israël et de même à venir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.